Chapitre 56. Surplomb du monde a rempli la mission que lui avaient assignée les antiques sorciers, dit Simon à Nietzsche et à Nathan. Depuis la défaite du buveur de vie, il semblait très content de lui et bien plus à l'aise dans son rôle, celui d'un chercheur, pas d'un combattant. Cela dit, il avait toujours l'air bien trop jeune pour un conservateur en chef. « Mes érudits vont pouvoir s'occuper en paix de classement et de recherche pure. Il nous reste tant à apprendre. » Les subordonnés de Simon étaient retournés à leur travail quotidien. Recenser les volumes, les ranger par sujet et noter les connaissances contenues dans chaque section désorganisée de la bibliothèque, sans pessimisme aucun, il leur restait des dizaines d'années de travail. Émerveillé, Simon regarda autour de lui comme s'il tentait d'évaluer le nombre de grimoires contenus dans une seule salle de la bibliothèque, sans perdre de vue qu'il y en avait des dizaines. « Le projet semble plus qu'ambitieux, je le concède, mais je me sens plein d'énergie. Depuis 20 ans, je n'avais plus éprouvé un tel enthousiasme. »«
Après les derniers événements, » dit Nathan, « c'est bien normal. Redécouvrir toutes les merveilles entreposées ici regonflerait le moral de n'importe qui. » En outre, comme tu le sais très bien, avec le changement stellaire, toutes les règles ont bougé. Du coup, nous ignorons combien de ces informations restent pertinentes et combien devront être réévaluées, réapprises ou redéfinies.
Simon ne parut pas ébranlé par cette perspective.
Quelle que soit la réponse, nous sommes prêts.
Si votre seigneur Ral veut vraiment créer un nouvel âge d'or, la magie conservée ici sera mise au service de l'humanité.
Traité comme un coq en pâte, Bannon rayonnait, même si l'estomac d'un homme avait ses limites tout comme ses jambes. Cessant de manger et de danser, en tout cas provisoirement, il prit le temps de récapituler les derniers mois de sa vie et de s'émerveiller de leur foisonnante richesse. Même s'il avait dû surmonter de terribles épreuves, son existence correspondait enfin à ce qu'il désirait depuis toujours. En combattant les Selka ou les hommes poussières, et plus encore face aux buveurs de vie, Bannon avait souvent pensé qu'il vivait ses derniers instants. Avec du recul, les couleurs de ses souvenirs sinistres se ravivaient, les transformant en récits épiques qu'il raconterait encore quand il serait un vieux type entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Loin de regretter d'avoir couru tant de risques, il brûlait d'envie de recommencer. Et l'amour, quelle merveille! À surplomb du monde, il avait eu la chance de séduire 3 splendides jeunes femmes qui l'adoraient et l'initiaient aux joies du plaisir physique. D'abord un peu lourdeau, il en convenait volontiers, et il s'était vite révélé un élève doué. Désormais, ses nuits étaient un feu d'artifice, un monde peuplé de peaux soyeuses, de caresses enivrantes, de rires étouffés et d'yeux brillants. Comment choisir une favorite parmi ses beautés? Par bonheur, Audrey, Laurel et Sage semblaient enclines au partage. Des années durant, Bannon avait été prisonnier d'un cauchemar. Depuis quelque temps, il vivait dans un rêve éveillé. Quand les festivités furent finies, il erra dans les couloirs du complexe en quête de ses 3 compagnes. Après son retour triomphant de la balafre, elle l'avait récompensé avec un enthousiasme touchant. Mais Victoria leur avait assigné, il ne savait trop quelle mission capitale. La larme à l'œil, les délicieuses acolytes avaient annoncé à Bannon qu'elles devraient le négliger pour un temps. De fait, il ne les avait plus vues depuis 2 jours. En manque, il les chercha un peu partout, y compris dans le quartier des mémoristes, où il tomba sur Franklin, un type d'âge moyen, aux grands yeux de hibou et au menton carré.
« Victoria les a emmenés dehors, quelque part dans la balafre, » expliqua-t-il. « Je crois qu'elle a trouvé un moyen d'aider la vallée à renaître plus vite. »
Cachant sa déception, Bannon acquiesça gravement. Mais une tâche vitale, donc. Je m'en voudrais de les en détourner. Espérant que ses petites amoureuses reviendraient bientôt, le jeune homme regagna sa chambre. Chardon ne s'était toujours pas lassé de dormir sur la peau de mouton, dans la chambre de Nietzsche.
Je me suis beaucoup inquiété, tu sais. Je voulais pas te perdre. Après tout, il me reste que toi.
Nietzsche fronça les sourcils.
J'avais promis de revenir. Tu aurais dû me faire confiance.
Pendant que les couturières reprisaient sa robe noire, la magicienne portait une tunique en lin très confortable.
Je t'ai cru et j'étais sûre que tu tuerais le buveur de vie. Maintenant, je suis prête à explorer le monde avec toi. On part bientôt?
Nietzsche songea au long voyage qui l'attendait, semé d'obstacles et de dangers.
Tu as traversé beaucoup d'épreuves et ça ne sera pas une promenade de santé. Tu es sûr de vouloir venir ?
Chardon s'assit sur sa peau de mouton, les genoux repliés contre la poitrine.
Bien sûr, je sais chasser, j'ai des dons d'éclaireuse et tu sais que je me bats très bien.
Un jour, quelqu'un reconstruira les sources de Verdun. Tu ne voudrais pas y habiter ? C'est ton foyer.
Non, mon foyer, je l'ai perdu il y a très longtemps. Comme je ne vivrai pas assez longtemps pour voir la vallée redevenir fertile, je préfère découvrir d'autres endroits du monde. Mon foyer, c'est toi. Et quand tu partiras, je t'accompagnerai.
Amusé par la détermination de Chardon, Nietzsche s'étendit sur sa paillasse.
Dans ce cas, je ne vois pas comment te laisser en arrière.
La magicienne remonta la couverture sous son menton, souffla les bougies avec un filament de pouvoir et s'endormit comme une masse.